accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens avec aujourd'hui la colère persistante des Hongrois contre le gouvernement Orban, une piste de rêve pour les skateurs à Prague, des djihadistes bulgares en Syrie et en Irak, la Belgique, Eldorado des étudiants français, un bus amphibie à Stockholm et la sortie de Gorka 2 sur les écrans russes. Lundi dernier, les Hongrois descendaient dans la rue pour une journée de la colère. Des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées à Budapest et dans tout le pays à l'appel de mouvements citoyens sur les réseaux sociaux. Les Hongrois expatriés ont également manifesté à Berlin, Amsterdam et Londres. Cela fait un mois que le pays est agité par des rassemblements de masse. C'est un projet de taxe sur la consommation d'Internet qui a d'abord fait sortir les Hongrois de leur gond. Fin octobre, ils étaient presque 100 000 à protester. Alors depuis, le gouvernement a retiré le projet, mais la colère, elle, ne s'éteint pas. C'est un reportage de Florence Labruyère.
On en a assez, Orban dégage. Les Hongrois ont crié ces slogans pendant des heures sur la place du Parlement. L'ambiance est euphorique, beaucoup de jeunes manifestent pour la première fois. C'est le cas d'András Mijur, un étudiant en philosophie de 27 ans.
Avant, je ne voyais aucune raison de venir manifester. Je pensais que la Hongrie n'était pas un pays dans lequel je voulais vivre. Mais la taxe sur Internet m'a fait changer d'avis. Viktor Orban est un menteur. Toute leur communication sur la taxe est un mensonge. Et on a d'autres problèmes avec ce gouvernement. Il attaque le secteur associatif et la corruption est le principal problème dans notre pays.
La corruption n'est pas un phénomène nouveau. Mais en octobre dernier, le gouvernement américain a interdit l'entrée sur son territoire à une demi-douzaine de hauts fonctionnaires et de proches du gouvernement hongrois soupçonnés de corruption. Cette intervention des Américains a encouragé les Hongrois à descendre dans la rue, comme Tomasz Mellár. Ce professeur d'économie et ancien conseiller du gouvernement Orban a pris la parole pendant les manifestations.
Quand les Américains ont commencé à parler de la corruption, je me suis dit « Ah, nous ne sommes pas les seuls, quelqu'un d'autre pense comme nous ». Et ça a poussé beaucoup de gens qui ne s'intéressaient pas à la politique à sortir dans la rue.
La taxe sur Internet est le catalyseur qui a déclenché la fureur populaire. Tomasz Kovács est technicien automobile, il a 26 ans. Sa colère est teintée de désespoir.
On veut la démocratie, on veut un peu de liberté. Pas beaucoup, juste assez pour vivre normalement. Car ici, on ne vit pas. Beaucoup de familles meurent de faim et eux, ils s'en mettent plein les poches. Je paie beaucoup d'impôts et je ne m'en sors pas. Tout ce que je paie comme taxe, ça ne remplacera jamais l'argent qu'ils ont volé.
Pour Victoria, une assistante commerciale de 40 ans, descendre dans la rue est le seul moyen de se faire entendre.
Il ne s'agit plus seulement de la taxe sur Internet ou de la corruption. Maintenant, les gens veulent que le gouvernement démissionne, que tous les politiciens corrompus s'en aillent. Et les gens manifestent aussi contre l'opposition qui est nulle. Viktor Orban gagne élection après élection parce qu'il n'y a personne de valable en face. On ne se sent plus représenté par aucun parti. C'est pour ça qu'on est dans la rue.
Les Hongrois ne font plus confiance à la politique ni aux partis. Alors, sur quoi peuvent déboucher ces manifestations? Et d'où viendra le changement? Élément de réponse avec la sociologue Zsuzsa Ferguey.
Les gens ne veulent plus des partis. C'est pour ça, vous savez que la majorité n'allait pas aux élections parce qu'il n'y avait, il n'avait personne qu'on aurait pu élire. Donc, je crois que c'est trouver quelques figures symboliques qui pourrait incorporer quelque chose de cette résistance, ce serait probablement important. Comme solidarité, solidarité a trouvé une figure. Valença, pour des années, était vraiment une figure symbolique qui incorporait tout ce que solidarité symbolisait.
Il faudra beaucoup de temps pour que la société civile s'organise, mais pour Zsuzsa Ferguey, le changement est déjà perceptible.
Il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu, que les gens commencent à parler. Dans les magasins, quand je paye travaille à la caisse, la caissière, elle dit que c'est impossible, c'est pas supportable.
Donc le régime n'est plus supportable.
Oui, le régime, les conditions créées par le régime. Donc quelque chose commence à changer.
Europa!
La colère des Hongrois contre le gouvernement Orban, un reportage à Budapest de Florence Labruyère. En République tchèque, c'est un autre symbole de la corruption municipale qui fait l'actualité. À Prague, un tunnel en construction qui pour l'heure fait le bonheur des amateurs de skate, de planche à roulettes en bon français. Précision d'Alexis Rosenzweig.
6 km d'asphalte, tout neuf et tout lisse, sur de larges voies, en pente et sans aucune voiture ni camion. Un paradis pour tous les skateurs qui se donnent rendez-vous depuis plusieurs semaines pour cette descente et une montée d'adrénaline. L'aventure ne dure que moins d'une quinzaine de minutes et finit parfois encore plus vite quand on est pris par la patrouille. Mais même avec une amende de 20 euros, le jeu en vaut la chandelle, affirment ceux qui sont fiers d'avoir, en plus, été escortés vers la sortie par des uniformes et gyrophares. Nouveau spot à la mode, le tunnel Blanka a fait plus qu'à son tour la une de l'actualité municipale et nationale depuis le début des travaux. C'était en 2007. Grâce à lui, Prague devait s'enorgueillir d'avoir le plus grand tunnel urbain d'Europe. Finalement, il a coûté plus d'un milliard d'euros et quelques glissements de terrain, surfacturation et autres irrégularités plus tard. C'est un symbole de la corruption rampante à la mairie ces dernières années. Et l'objet aussi de jeux de mots en tout genre, car le mot tunnel désigne en tchèque un mécanisme de siphonnage financier très prisé par les escrocs locaux. Si les forces de l'ordre ne font pas en sorte de bloquer entièrement ces entrées, Blanka pourrait encore être empruntée par les amateurs de longboard et autres planches à roulettes jusqu'au 3 décembre, la date prévue de son ouverture officielle, à moins qu'elle ne soit une nouvelle fois repoussée.
Il serait 3000 Européens à avoir rejoint l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie. Ils viennent de France et le font savoir via des vidéos appelant les musulmans de leur pays à rejoindre leur rang. Ils viennent aussi d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de Belgique, des Pays-Bas ou encore de Suède et de Bulgarie. Pour en parler avec nous, Damian Vodenicharov, on parle d'une quarantaine de personnes, mais pas facile d'avoir des chiffres précis, Damian.
En fait, cette histoire est un peu un mystère au sein d'une énigme. C'est une chaîne de télé bulgare qui a révélé leur existence, citant des sources anonymes, et la réaction politique a été pour le moins confuse. L'ancien ministre de la Défense, Velizar Chalamanov, avait confirmé que des services de renseignement alliés lui avaient fait parvenir cette information. Le Premier ministre intérimaire, lui, l'avait réfuté. Après le changement de cabinet il y a 2 semaines, les nouveaux dirigeants disent ne pas avoir de preuves en ce sens. Le gouvernement serait pourtant en train de préparer un amendement au code pénal pour pouvoir poursuivre en justice ces djihadistes bulgares. Les services de renseignement n'ont rien confirmé pour l'instant. Il dit juste vérifier tous les ressortissants bulgares qui se rendent en Irak ou en Syrie.
Alors, est-ce que la Bulgarie a connu récemment des affaires ou des attentats liés à l'islamisme radical ?
Effectivement, un attentat kamikaze en juillet 2012 avait fait 7 morts, mais des djihadistes libanais étaient responsables. Il y a aussi d'autres antécédents. En 2012, 13 personnes ont été accusées de répandre des idées radicales dans le pays. Elles auraient tenu des discours antidémocratiques et soutenant le salafisme et la charia. D'après le parquet, certains d'entre eux auraient également fréquenté des écoles coraniques salafistes. Les accusés appartiendraient à une organisation dénommée Al-Waqf Al-Islami. Le procès est encore en cours et devrait reprendre en janvier. Et des enquêtes de journalistes ont par ailleurs révélé l'existence de madrassas clandestines dans plusieurs villes bulgares. Le jeune musulman y recevra une éducation gratuite. À partir de là, rien n'est encore prouvé, et si des liens existent entre tous ces éléments, ils ne sont pas évidents. En tout cas, l'islam a de très profondes racines en Bulgarie, près de 570 000 personnes sont de confession musulmane, ce qui représente près de 8% de la population, et d'ici 2030, ce nombre pourrait doubler d'après le Pew Research Center. Alors, est-ce que cette minorité religieuse pourrait être la cible de recruteurs de l'État islamique ou d'autres organisations terroristes ?
Merci Damian Vodenicharov à Sofia. C'est le nouvel Eldorado pour de nombreux étudiants français juste de l'autre côté de la frontière, la Belgique, qui accueille plus de 20 000 jeunes sur les bancs des universités, surtout dans les filières paramédicales. Et pour cause, aucun concours et des frais d'inscription dérisoires par rapport à ce qui est pratiqué en France. L'affluence des étudiants français est telle que le gouvernement belge a dû réagir. Le reportage de Nicolas Feldman commence à la Haute École Libre de Bruxelles.
Donc on consacrera ce cours à corriger les travaux, à répondre à vos questions, à essayer de vous améliorer.
Dans le cours de Jean-Marc Alexandre, sur les 200 élèves en première année de kinésithérapie, 42 sont français. Manon vient de Limoges, elle a dû passer par le tirage au sort.
Et c'était la folie, parce qu'on n'était que 40 tirs au sort sur 285. Le premier jour, je suis arrivée vers 6h du matin, alors que ça ouvrait vers 9h. Et je sais qu'à 6h du matin, on était déjà 6 à attendre devant les portes avec nos dossiers. Vers 7h, 7h30, il y avait déjà une queue à perte de vue. À 9h30, ils nous ont donné un ticket avec notre numéro. Et à partir de ce moment-là, en fait, notre numéro, c'était le numéro qu'on aurait pour le tirage au sort.
Et à cette grande loterie, Manon a tiré le bon numéro, tout comme Vincent. Mais ce Bordelais de 25 ans s'est acharné pour éviter le coût exorbitant des écoles privées de kinésithérapie en France.
4 fois, je l'ai tenté, ce tirage au sort. La 4e était la bonne. En France, bah le prix, c'est déjà quand tu rentres en prépa, c'est 1 500 euros, tu payes. Et après, quand tu vas rentrer dans l'école, si jamais tu as réussi le concours, c'est minimum 3 000 euros, quoi. 3 000 euros, 5 000 euros, 8 000 euros, tu vois. Donc voilà, la Belgique, moi, ça m'a paru un très bon choix, quoi.
Jusqu'à 8 000 euros en France, soit presque 10 fois plus cher que le coût de la formation en Belgique, qui est de 835 euros en première année. Un prix attractif, une formation de qualité, mais aussi l'absence de concours. Autant d'arguments qui ont poussé les Français à se ruer vers les formations médicales de l'autre côté de la frontière. Pour éviter de priver de place les étudiants belges, les autorités ont réagi. En 2006, les places pour les Français ont été limitées et les heureux élus désignés par tirage au sort. Annick Vanderen est directrice des filières paramédicales de la Haute École Libre de Bruxelles.
Il y a une dizaine d'années, on était à une situation où on avait dans pas mal de filières, notamment en kinésithérapie, 80 à 90% des étudiants qui étaient français. Et donc la communauté française de Belgique a mis en place un décret non résident de manière à limiter le nombre d'étudiants non résidents dans ces filières pour permettre aux étudiants belges d'avoir une place pour étudier dans nos écoles.
Malgré cette limitation, certains restent prêts à tout pour étudier en Belgique et ainsi éviter le système des tirages au sort. Tard, à 27 ans, il vient de Bordeaux et lui est tout simplement devenu résident belge.
Pour intégrer la formation, je travaillais en tant que maître-nageur et prof de fitness. Le concept de travailler 15 mois en Belgique, ça permet d'intégrer la formation kinésithérapie sans passer par le tirage au sort. Je deviens résident belge.
Toutes les filières ne sont pourtant pas concernées par les tirages au sort. La podologie, par exemple, intéresse peu les étudiants belges. Du coup, aucune limitation d'étudiants français. Aujourd'hui, les 3e années de podologie reçoivent des patients.
La boutique. Bonjour, monsieur.
Moi, j'ai pris le
Camille vient de Lyon, elle fait partie de l'écrasante majorité des Français de sa promotion.
On est 40 dans notre classe, il y a une fille qui est en Erasmus, et sinon je crois qu'il n'y a que 2 Belges. Et sinon on est tous Français. Moi j'ai choisi d'étudier en Belgique parce que les prix des écoles, j'étais prise à Paris et l'école c'est 10 000 euros, donc on rajoute un zéro par rapport à ici. Donc c'est plutôt côté financier. Puis la formation, elle n'est pas... Elle est correcte, donc voilà.
Dans moins d'1 an, à la fin de ses études, comme la majorité de ses camarades, Camille rentrera exercer en France. Une réalité dont a conscience la directrice des filières paramédicales de l'école, Annick Vanderen.
La majorité d'entre eux repartent. Le contribuable belge râle régulièrement sur ce fait-là, que nous payons dans nos impôts de quoi financer nos écoles et universités pour former des étudiants français.
Car chaque année, la communauté française de Belgique débourse près de 4000 euros par étudiant pour des jeunes qui en grande partie quitteront le pays une fois diplômés, avec le risque à terme pour la Belgique de souffrir d'une pénurie de spécialistes dans certaines filières.
Depuis quelques semaines, un nouveau véhicule étrange sillonne les rues et la baie de Stockholm. Il s'agit d'un bus amphibie particulièrement adapté à la capitale scandinave où l'eau est omniprésente. À son volant, un capitaine et c'est Benoît Derrier qui est monté à bord.
À en juger par les regards des passants qui l'aperçoivent, le bus amphibie fait son petit effet. Avec sa carrosserie profilée comme une coque de bateau, à la fois plus haut et moins large qu'un bus classique, l'engin ne passe pas inaperçu dans les rues de Stockholm. À bord, une vingtaine de passagers vont découvrir la ville, à la fois depuis la terre et depuis la mer, sans bouger de leur siège.
Beneath you, you will find your life jackets, and hopefully we don't need to use them.
Après une vingtaine de minutes à déambuler lentement dans les rues des quartiers chics pour se faire admirer et se faire connaître, c'est le moment de la mise à l'eau. Musique grandiloquente dans la sono pour une manœuvre finalement étonnamment simple. Le bus s'avance dans l'eau et au grand soulagement de tout le monde, il flotte. Paul Ekvall, le guide et propriétaire de l'engin.
S'il y a une ville qui doit être vue depuis la mer, c'est bien Stockholm. On dit d'ailleurs que c'est la Venise du Nord. C'est incroyablement beau. Et puis il y a le moment de la mise à l'eau, qui est vraiment le clou du spectacle, si j'ose dire.
Sous la coque, un châssis de vieux bus Volvo. Au volant, ou plutôt à la barre, c'est Johnny.
Cet engin est vraiment un bon bateau. C'est d'ailleurs surprenant qu'il soit aussi stable et facile à diriger.
Vitesse de croisière, 4 nœuds. Tout le temps d'admirer les superbes façades de Strandvägen, le front de mer de Stockholm. Maria, stockholmoise depuis 10 ans, est enthousiaste.
C'est vraiment une expérience extraordinaire que de voir la ville depuis la mer sans changer de véhicule. Et la mise à l'eau était très spectaculaire. C'est vraiment génial.
Il existe une soixantaine de bus amphibies à travers le monde. Celui qui parcourt Stockholm est pour le moment le seul en Scandinavie.
Горько 2 в кино с 23 октября. Ce n'est pas un blockbuster et pourtant il fait un carton en Russie, Gork 2, une comédie russe qui essaie de surfer sur le succès du premier film, Étienne Bouche.
Gork, c'est en Russie l'expression que les convives utilisent pour inviter les mariés à s'embrasser. Dans le premier film, c'est bien d'un mariage qu'il s'agissait. Roma et Natacha rêvent de noces festives au bord de la mer Noire, mais leurs parents ont en tête un programme hélas bien moins réjouissant. Le père de la mariée, fonctionnaire de mairie, a pensé à tout. Un dîner en ville et des activités aussi ennuyeuses que ridicules. Les amoureux décident alors d'organiser deux mariages, un pour satisfaire la famille et un autre secret beaucoup plus dévergondé. Mais les choses se compliquent lorsque les deux catégories de convives finissent par se rencontrer. Le film, réalisé par un inconnu, s'amuse à des traditions et du conflit de génération. Le comique est épais, les gags pas franchement fins, et pourtant, le film a eu un énorme succès en salle, rare pour une production nationale. Alors forcément, ça a donné des idées aux producteurs. Le mois dernier, les spectateurs russes ont découvert la suite. Cette fois, c'est Boris, le père de la mariée, qui se trouve être la cible de la mafia locale. Alors pour échapper à son assassinat, il décide de simuler sa mort. Seulement un ami de la famille débarque, mais il est déjà trop tard, il faut jouer le jeu. Allongé dans son cercueil, Boris fait le mort et la famille fait mine d'organiser ses funérailles. Le film tente de reproduire la même mécanique que l'original, mais le comique de situation est très rapidement répétitif. Les scènes se succèdent laborieusement et la fraîcheur qui pouvait séduire dans le premier volet a disparu. Pourtant, en salle, le film marche, déjà plus de 13 millions de dollars de recettes pour un budget modeste, ce qui l'assure d'être l'un des films les plus rentables de l'année. Par contre, l'adhésion à cette suite est moins franche, sur internet les commentaires ne sont pas tendres, les plus enthousiastes reconnaissent que le film n'est pas au niveau du premier, beaucoup le jugent sans intérêt sinon commercial, les plus sévères se désolent qu'une comédie aussi indigeste attire massivement le public, et sur ce point, difficile de leur donner tort.
Et notre réalisatrice à nous s'appelle Françoise Grelot, Accent d'Europe, émission à retrouver demain dès 12h40 temps universel et tout de suite sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent.